Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
C'est l'heure d'aborder un sujet érotisant, la Constitution, avec nul autre que notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, Patrick Taillon. Bonjour Patrick.
Bonjour Antoine.
La semaine passée, on a parlé du jugement pendant toute la chronique, le jugement sur la loi 21. Aujourd'hui, on va parler d'immigration, mais je veux revenir quand même sur le jugement. J'ai oublié et omis de te poser quelques questions qui sont très d'actualité. Par exemple, sur Twitter ou X maintenant, il y a André Pratt, qui est président de la commission politique du Parti libéral, qui dit « C'est drôle, j'entends personne soutenir que ce jugement est illégitime parce que prononcé par des juges de nomination fédérale. » Et tu lui as répondu. Qu'est-ce que tu lui as répondu en substance?
Oh, je m'en souviens plus trop déjà, mais je crois que ça touchait certainement à l'idée qu'il faut pas personnaliser ce débat sur la critique des juges. Et dans le cas d'André Pratt, en tout cas en ce qui me concerne, lorsqu'on a eu à interagir sur des dossiers qui concernaient le fédéralisme et le fonctionnement du Québec dans son rôle de sénateur, c'était un excellent sénateur. Mais le fait qu'il soit un excellent sénateur ne change rien au fait qu'il est pertinent, nécessaire de critiquer le fonctionnement du Sénat, le mode de nomination des sénateurs. Et donc, c'est deux choses différentes que celle de débattre de est-ce que les trois juges qui sont saisis du dossier de la laïcité à la Cour d'appel, s'ils ont des compétences ou ils en ont pas. Des gens compétents, il y en a beaucoup. C'est pas vraiment ça l'enjeu. Le problème du mode de nomination au Canada, c'est sur le plan structurel, c'est sur les grands nombres que le problème se manifeste. On dit le fait que ce soit toujours l'exécutif fédéral, le gouvernement fédéral qui choisit les arbitres dans les litiges qui les opposent aux provinces, ça n'empêche pas les arbitres en question d'en être conscients et de parfois vouloir même manifester de l'indépendance à l'endroit du pouvoir qui les a nommés, et parfois de montrer qu'ils ont une autonomie puis une indépendance d'esprit. Et donc, l'espèce de dysfonctionnement qui est associé à notre procédure de nomination, il conduit pas automatiquement à des décisions pro-Ottawa à chaque fois. Mm-hmm. Il introduit seulement tout ce que ça produit, c'est qu'on a une surreprésentation de certaines sensibilités politiques au détriment de d'autres. On a des philosophies, des approches qui sont surreprésentées. Et des fois, ça peut avoir l'effet d'amener les juges à dire bon, ben là, on est dans un dossier délicat, on va faire attention.
C'est ça, un effet systémique.
Ils font d'être unanime. Hein?
Le mot systémique peut être pratique ici.
Oui. Le fait d'être sujet à la critique peut amener à faire preuve de retenue dans certains cas. Des fois, c'est pas le cas. Et donc, il faut faire un certain nombre de distinctions. Et il y a quel genre de critique, puis il y a qui formule la critique. Donc, sur le quel genre de critique, la ligne est mince, mais autant c'est essentiel dans une démocratie de pouvoir critiquer les lacunes de nos institutions, autant il faut pas tomber dans ce que j'appellerais miner l'autorité des tribunaux. Mais en même temps, si on pense que nos tribunaux sont pas capables de supporter la critique, là, je donne pas cher de notre état de droit. Donc, il faut être capable de critiquer les tribunaux, les lacunes, les dysfonctionnements, et d'ailleurs, ils le font un peu entre eux à certains égards, et pas nécessairement tomber dans une remise en question de la compétence personnelle des juges et de l'autorité générale des tribunaux. Puis après ça, il y a qui formule la critique. Moi, ce que je déplore souvent, c'est comment la communauté juridique, à commencer par les profs d'université, les avocats, etc., on a tendance à être complaisant à l'endroit des juges et d'être parfois inutilement suspicieux à l'endroit du politique avec une vision manichéenne. Tout ce que font les élus, c'est mal. Tout ce que font les juges, c'est technique et c'est génial. Et bon, face à cette espèce de manichéisme propre à notre époque, moi, j'aime apporter des nuances. Mais les choses sont évidemment beaucoup plus contrastées.
Mais certains pourraient dire que cette décision-là, qui renforce la notion de disposition de dérogation, même de souveraineté parlementaire, est-ce que ça donne pas tort à ceux qui critiquent le gouvernement des juges?
Ben, d'une certaine manière, ça montre en tout cas qu'il y a un seuil de pouvoir que, en tout cas, on n'a pas osé se donner. Qu'est-ce que ça veut dire, gouvernement des juges? Ça veut dire que les juges exercent de plus en plus d'influence dans notre société. Je connais personne qui remet en question cette idée que les juges occupent de plus en plus d'influence. Il y en a qui le célèbrent et il y en a qui le déplorent. Par contre, l'expression gouvernement des juges, elle est un peu mal choisie. Parce qu'en vérité, si le juge dépasse son rôle traditionnel, c'est pas tant pour empiéter sur celui du gouvernement qui administre, dépense, gère. C'est plutôt pour empiéter sur celui du législateur. Et ça, le juge lui-même l'admet, là, qu'il établit des interdits, qu'il établit des limites, et à quelque part, il énonce des règles générales. Je dirais même pire, nos juges...
Ils peuvent même réécrire des lois.
Oui, ils vont réécrire des lois. Mais en plus, ils vont non seulement réécrire des lois, mais des fois, ils vont réécrire des normes générales qui sont au-dessus des lois. C'est-à-dire que l'interprétation constitutionnelle, quand le juge fait parler la Constitution, ben il la précise, et en la précisant, il écrit des lois qui sont au-dessus des autres lois. Et donc, l'expression « gouvernement des juges », elle est surtout maladroite. Mais elle décrit une réalité qu'en vérité, personne ne conteste. Et là, il faut voir qu'à ce jeu-là, qui critique, ça compte beaucoup. Et je pense que si la communauté juridique était un peu plus critique, ce serait bien. C'est vrai qu'en contrepartie, les élus, au nom d'un certain dialogue, d'une certaine courtoisie entre les institutions, c'est vrai que pour un premier ministre, un ministre de la Justice, c'est pas toujours les mieux placés pour exprimer cette critique-là. Et donc, évidemment, dans un univers partisan, ben, un certain nombre de voix se sont élevées pour critiquer les propos de M. Legault qui critiquait les juges nommés par Ottawa. Alors moi, sur le fond, j'ai pas de problème avec le propos de M. Legault, mais si j'étais son conseiller, je dirais, ben, comme vous êtes premier ministre, c'est pas une bonne idée de dire cela. Laissez d'autres personnes le dire. Mais on remarquera que c'est pas le propre seulement de la colline Québec de critiquer les juges. Parce que quand on regarde la réaction du gouvernement Trudeau, de Justin Trudeau et de son ministre de la Justice à la décision rendue par la Cour d'appel, ben là, on voit que eux aussi, ils sont capables de miner l'autorité des tribunaux, de ne pas nécessairement être de bons perdants et d'accepter en bon joueur, avec courtoisie et fair play, la décision qui a été rendue. Et donc, ce jeu politique-là, il se joue dans des deux côtés. Et là-dessus, c'est vrai que si on veut que les juges fassent preuve de respect et de retenue à l'endroit du travail des élus, d'après moi, ça dépend lesquels, mais il y en a parfois qui manquent de retenue à l'égard des élus, ben, les élus doivent eux aussi faire preuve d'une certaine exemplarité, puis en retour, appliquer une certaine réserve dans les commentaires qu'ils font à l'endroit de la magistrature. Mais à terme, c'est inévitable. Plus ces questions de constitution et de droits fondamentaux vont occuper de la place dans notre démocratie, et plus ça va devenir normal qu'on débatte de ces questions-là, qu'il y ait une discussion démocratique sur ces questions-là et qu'il y ait des critiques qui s'expriment. Il faut absolument, à mon avis, éviter cette espèce de sacralisation d'une justice qui, en vérité, est une justice humaine, qui gère des contraintes d'une autre nature que les contraintes politiques, mais qui sont des contraintes avec à partir desquelles, au-delà de ces contraintes, le juge fait des choix. Et une fois...
Deuxième sujet, il faut parler du deuxième sujet parce que le temps file. L'immigration, Patrick Taillon, il y a des aspects constitutionnels au débat entre Québec et Ottawa. Il y a cette entente-là de 1977, cette autre entente de 1991, là, l'entente McDougall et Gagnon-Tremblay qui devrait finalement gouverner les rapports entre Québec et Ottawa sur la question de l'immigration. Il y a la Constitution en arrière-plan. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'aspect constitutionnel de ce très dur débat quand même entre deux gouvernements, deux
oui,
paliers de gouvernement.
Oui, la sortie du ministre Mark Miller cette semaine ne manquait pas d'arrogance. Hein. Mais aujourd'hui, Antoine, je voudrais penser un peu contre moi-même. Et mon biais, évidemment, est toujours d'essayer de défendre les intérêts du Québec de façon un peu transpartisane de la manière qu'ils sont représentés à l'Assemblée nationale. Et dans le dossier de l'immigration, si on essayait de s'auto-critiquer, là, nous, du point de vue québécois, je pense qu'il y a matière là, à se regarder un peu dans le miroir. Ce qui m'inquiète dans ce dossier.
Parce que la ministre Fréchette a parlé d'une attaque contre les compétences du Québec.
Ben oui, donc, c'en est une. C'est un manque de respect
une question constitutionnelle,
de l'accord fédéral-provincial.
Mais tu trouves que ça manque d'ordre un peu les revendications?
Oui, je trouve que dans le dossier de l'immigration, on revendique des choses avec beaucoup d'instabilité. Ça me rappelle le slogan des années 60-70, hein, « What does Québec want? » Ben, en immigration, qu'est-ce que le Québec veut? Un jour, on parle de rapatrier des pouvoirs. L'autre jour, on parle d'exercer les pouvoirs dont on dispose déjà en vertu de l'entente, mais qu'on exploite peut-être pas suffisamment. Certains jours, on parle de réouvrir l'entente, mais pas nécessairement de rapatrier tous les pouvoirs. Des jours, on parle même d'un référendum, Antoine. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on voit un peu plus clair d'abord dans qu'est-ce qu'on a de besoin. Et l'inconstance dans nos revendications, c'est souvent le propre, en tout cas, ça sera mon thème d'aujourd'hui, des dossiers où on est en compétences partagées, comme en environnement, en culture, en immigration. Nos représentants à l'Assemblée nationale, à juste titre, sont très rapides, ils ont raison de le faire, pour revendiquer rapatriement de pouvoir, donc de l'autonomie, ou de l'argent. Ça, c'est facile. Quand il s'agit de revendiquer ça, notre cohérence, elle arrive rapidement. Mais là où on a de la difficulté, c'est à penser des mécanismes où, quand on est dans une logique de compétences partagées, puis qu'on accepte l'idée que Ottawa va continuer à agir un peu dans le domaine, un peu, beaucoup, mais qu'on va pas tout rapatrier. Qu'est-ce qu'on fait dans notre relation avec Ottawa dans l'exercice du bout de compétence qui relève de son domaine de compétence, mais que l'on voudrait un peu assujettir à une politique commune? Que l'on voudrait, dans quelle mesure on pourrait pas inventer des mécanismes, je vais le dire de façon un peu polémique, mais pour un peu inviter le Québec dans les compétences fédérales, s'ingérer un peu dans les compétences fédérales, comme le fédéral, lui, a développé des techniques pour s'inviter dans nos compétences. Et jadis, on était très fort au Québec pour mettre de l'ordre dans nos priorités, rapport à l'air, rapport Bélanger-Campeau, sur l'enjeu fiscal, commission Séguin.
Dans les années 90,
Mais là, on voit, Séguin, c'est bizarre. On a plein de partis à l'Assemblée nationale qui tiennent. Ça leur tient à cœur la défense des intérêts du Québec, mais personne ne veut débattre techniquement de qu'est-ce qu'on a besoin en immigration et quel est l'ordre de priorité.
Ben oui.
Et moi, en tout cas, ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que, mettons qu'on les rapatrie les pouvoirs en immigration, là. Je suis pour ça, là.
Ouais.
Il va en avoir que ça sert à rien de rapatrier, là. Je donne un exemple. Le traitement des réfugiés. Les demandes de réfugiés, au fond, c'est pour le moment, c'est Ottawa qui s'en occupe, c'est pas nous. Si on le rapatrie, ça pourrait être un gain d'autonomie, là, je suis pas contre. Mais à la fin, ça serait quand même pas le ministre québécois de l'environnement de l'immigration qui trancherait ces litiges-là. Le droit international nous impose, c'est impératif, qu'il y ait un traitement individualisé. Au Canada, c'est par des commissaires, mais au fond, c'est des juges. Oui. Et l'enjeu sur le dossier des réfugiés, c'est d'avoir un nombre suffisant, le nombre approprié de décideurs pour traiter les demandes dans des délais exemplaires, des délais humainement raisonnables, qui font en sorte que lorsqu'il y a des refus, ben c'est pas une situation humainement injuste que de retourner une famille qui vit ici maintenant depuis des années, puis qui s'est enracinée entre le moment où elle a déposé sa demande et le moment où elle est tranchée. Donc, on voit ici que ce soit Québec ou que ce soit Ottawa, l'enjeu, c'est avons-nous assez de ressources? Donc, une entente Québec-Ottawa en immigration, ou une entente Québec-Ottawa en culture, ou une entente Québec-Ottawa en environnement, oui, ça doit comporter un volet « qu'est-ce qu'on rapatrie au Québec? » Mais le volet qu'on n'est pas très bon pour imaginer, c'est « quelles sont les conditions que l'on veut mettre dans l'entente pour forcer à Ottawa à respecter la prépondérance de notre politique, nos orientations. Ottawa, lui, ils savent comment faire à Ottawa, là. Ils imposent des normes nationales. C'est quoi, nous, notre équivalent des normes nationales? On pourrait inventer des mécanismes de co-décision, de co-gestion, d'approbation réciproque. Autrement dit, comment faire pour organiser les aspects qui, qu'on le veuille ou non, là, tant que le Québec sera pas un pays indépendant, Ottawa va continuer à jouer un rôle en culture, en environnement et en immigration. Ce rôle-là, on peut le réduire. Mais mettons qu'il existe encore un rôle. Comment on s'implique? Comment on met du Québec dans ce volet-là? Je trouve que ça, c'est un volet auquel on devrait davantage s'attarder. Par exemple, sur les réfugiés.
C'est comme si on
s'engage à avoir les effectifs nécessaires pour traiter les demandes. C'est peut-être une solution plus efficace que de rapatrier puis d'assumer le coût financier aussi associé à ces traitements de demandes.
C'est comme si en mettant le couvercle sur les questions constitutionnelles, on avait moins de compétences.
Oui, comme si on n'est pas capable de penser notre intérêt en dehors du rapatriement.
Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.